Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue au monde aujourd'hui. Au micro Nanit Talani, depuis le studio 8 de la Voix de l'Amérique à Washington. Voici les titres de cette session d'information de ce jeudi 18 janvier 2024. La deuxième journée des matchs de la CAN 2023 débute ce jeudi avec à l'affiche un grand derby entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Reportage et interview tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux. L'archipel des Comores sous couvre-feu nocturne après des heurts entre protestataires et forces de l'ordre dans la capitale. Au Tchad, l'opposition non armée exhorte le président de transition à renoncer à se présenter à la présidentielle de cette année. La Chine plaide pour une régulation mondiale de l'intelligence artificielle et puis fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Impact considérable sur le commerce et les voyages entre la RDC et le Burundi. Un reportage à suivre dans notre section magazine. En attendant, voici le journal. Est devenu une habitude depuis le début de la CAN. Nous ouvrons ce journal avec ce grand événement du football africain qui continue de battre son plein en Côte d'Ivoire. Direction Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Ouedraogo.
Oui, bonjour à tous. Début ce jeudi des matchs de la deuxième journée de cette CAN 2023. Gros choc dans le groupe A ici à Abidjan à 17h temps universel. La Côte d'Ivoire fait face au Nigeria qui veut se relancer après son match nul d'entrée. Pour le sélectionneur des éléphants, il faut élever le niveau de jeu.
On a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On est au courant des individualités. On a essayé de travailler comme il faut. On va proposer un match intense au Nigeria.
Jean-Louis Gasset, sélectionneur de la Côte d'Ivoire en face, son homologue du Nigeria, a une idée sur comment aborder cette rencontre. La finition, bien sûr, la concentration pour marquer, la concentration pour prendre la meilleure décision au dernier moment, c'est tout. Je pense que tout le monde a pu voir que notre équipe était bien meilleure que celle de la Guinée équatoriale. José Pesero, sélectionneur du Nigeria, bien avant cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria, toujours dans le groupe A, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale s'affrontent à 14h temps universel. Un peu plus tard au stade Félix Houphouët-Boigny, les pharaons d'Égypte contraints au nul lors du premier match et les Black Stars du Ghana battus croisent les crampons dans une opération relance.
Il faut rester concentré, c'est sur la concentration parce que je trouve que on était dans le match et on a manqué de concentration. Alors c'est sur ça qu'il faut être basé sur et aussi tactiquement, physiquement, on va être beaucoup mieux parce qu'on a bossé et j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance au staff et je pense qu'on verra un tout autre Ghana demain.
Jordan Ayou, attaquant des Black Stars du Ghana. Hier, dans le groupe F, les demi-finalistes marocains ont pulvérisé les Tanzaniens à San Pedro 3-0 pour entamer leur compétition. Sur place à San Pedro, le compte rendu de la rencontre avec notre envoyé spécial, Amin Birouk.
Ils se savaient attendus par toute l'Afrique du football, eu égard à leur quatrième place historique en Coupe du Monde il y a à peine 14 mois. Ils ont répondu sur le terrain aux plus sceptiques, qui voulaient voir comment les Lions de l'Atlas allaient pouvoir tenir leur rang face à la sélection tanzanienne. Un succès net et sans bavure 3-0, et une impression de solidité jamais démentie. Pourtant, la machine marocaine a mis 30 minutes pour se mettre en marche. Le temps qu'à Hakim Ziyech lance un coup franc repoussé par le gardien adverse dans les pieds du capitaine Romain Saïs qui se faisait un plaisir d'inscrire le premier but de la partie. Après une accalmie, les attaques des poulains de Walid Regragui reprenaient de plus belle. Avantagés après l'expulsion d'un joueur tanzanien, les Marocains inscrivent un deuxième but fort logiquement par le biais de Hasdine Ounahi à la 77e minute. Trois minutes plus tard, Youssef Nseri scellait le sort de la partie. Pour la circonstance, le sociétaire du FC Séville devenait le premier Marocain à marquer lors de quatre phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. En définitive, le Maroc a vaincu et convaincu. Il devra néanmoins passer un nouveau test beaucoup plus compliqué dimanche prochain devant la République démocratique du Congo. D'ici là, place à la récupération, car le choc sera rude sous un soleil de plomb, puisque le match aura lieu à 14h en temps universel. Depuis San Pedro, Côte d'Ivoire, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Pour les Lions de l'Atlas, Bilal Hanous, l'essentiel était de prendre les 3 points.
Que pour jouer ce premier match, il fallait prendre les 3 points et ça c'est plus important. Quand on peut commencer la compétition, il faut prendre les 3 points. Et voilà, maintenant on va se concentrer sur le prochain match qui est Congo. On va bien les analyser et on va prendre match par match à avancer et grandir dans cette compétition.
Bilal Hanous, joueur marocain au micro d'Amin Birouk. Juste après, les Léopards de la RDC ont été contraints au nul par les Chipolopolo de la Zambie, un but partout. Bagassi Koura, Yacouba Ouédraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.
Feu nocturne a été instauré hier sur l'archipel des Comores après des heurts entre protestataires et forces de l'ordre dans la capitale. Ce couvre-feu intervient au lendemain de l'annonce de la victoire au premier tour du sortant Azali Assoumani à la présidentielle, émaillé selon l'opposition de fraude. Le point avec John Lindon.
Un couvre-feu a été instauré et annoncé dans la soirée le délégué à la défense. Selon le décret paru dans la foulée, la mesure entrée en vigueur immédiatement place Moroni sous couvre-feu entre 16h GMT et 3h GMT, ainsi que le reste du territoire dès 19h GMT. Tout au long de la journée, dans les rues de Moroni, des barrages de fortune ont été dressés sur la chaussée. De nombreux commerces sont restés fermés. Des carcasses de voitures calcinées sur les bas-côtés et des restes de pneus brûlés donnaient à la capitale des allures de ville en proie à une guérilla urbaine. Plusieurs bâtiments ont également été incendiés selon des journalistes sur place. Le centre de la capitale, qui compte quelques 100 000 habitants, a été bouclé par des forces de l'ordre déployées en nombre. La route menant au principal aéroport de l'archipel a été bloquée. La connexion Internet a partiellement été interrompue, le principal opérateur évoquant des perturbations.
L'opposition non armée au Tchad appelle le général et président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, à renoncer à se présenter à la prochaine présidentielle prévue fin 2024. Le point avec Rosine Mounezero.
Le général Déby doit, par devoir patriotique, récuser l'investiture du MPS et renoncer à se présenter, écrit Wakitama dans un communiqué. Wakitama a fustigé la volonté de Mahamat Déby de succéder à son père. La principale plateforme de l'opposition et de la société civile, Wakitama, a accusé la communauté internationale, la France en tête, de soutenir une succession dynastique à la tête de ce pays sahélien et de conforter Mahamat Déby dans sa volonté de confisquer le pouvoir, y compris par la force. Fin décembre, une nouvelle constitution a été adoptée au terme d'un référendum marqué par 86% pour le oui, mais boycotté par l'opposition. La nouvelle loi fondamentale autorise notamment Mahamat Déby à se présenter à la prochaine présidentielle prévue d'ici à la fin de l'année. Et le parti dominant fondé par son père, le Mouvement Patriotique du Salut, MPS, l'a désigné samedi comme son candidat. Wakitama accuse en particulier la France, l'ancienne puissance coloniale, d'ingérence dans le cadre d'un projet plus vaste de lutte géopolitique française dans le Sahel africain. Par ailleurs, le GCAP, deuxième plateforme de l'opposition, a appelé à la résistance populaire et au rejet de la constitution de la Ve République en place depuis le référendum dans un entretien de son président Max Kemkoe avec l'AFP.
La justice sierra-léonaise a autorisé ce mercredi l'ex-président Ernest Bai Koroma à se rendre à l'étranger pour se soigner, a dit son avocat, maître Joseph Camara, sans préciser la date de son départ. Monsieur Koroma, ce soi-disant, se rendra au Nigeria pour y recevoir un traitement médical, selon la haute cour. Cette autorisation est nécessaire à cause de l'inculpation de l'ex-président pour son rôle dans une tentative présumée de coup d'État en novembre.
fin hier de la tournée africaine du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, qui a remercié le gouvernement ivoirien pour son soutien ferme sur la question de Taïwan à l'occasion d'une visite en Côte d'Ivoire, dernière étape d'un voyage en Afrique qu'il a ensuite conduit en Égypte, en Tunisie et au Togo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont annoncé ce mercredi désigner à nouveau les rebelles yéménites Houthis comme étant une entité terroriste. La sortie de Washington survient après les attaques de navires marchands américains en mer Rouge qui font craindre un embrasement régional. Mouamadou Oufa nous en dit plus.
Cette désignation vise à faire en sorte que le groupe rende des comptes pour ses activités terroristes, selon un communiqué du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui souligne que si les Houthis cessent leurs attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, les États-Unis réévalueront cette désignation. Cette sanction destinée à faire pression sur le groupe rebelle, tout en préservant l'acheminement de l'aide humanitaire cruciale au Yémen, ne prendra effet que dans 30 jours, selon le communiqué. En optant pour la qualification d'entité spécialement désignée comme terroriste au niveau mondial, les États-Unis entendent maintenir le flot de l'aide humanitaire au Yémen, qui en dépend très largement, a expliqué un responsable américain sous couvert d'anonymat. L'annonce intervient alors que l'armée américaine a lancé une série de frappes ces derniers jours contre les Houthis qui prennent pour cible des navires en solidarité selon eux avec les Palestiniens de Gaza, territoire pilonné et assiégé par Israël. Les États-Unis avaient retiré les Houthis en février 2021 de leur liste d'organisations terroristes. Ils avaient jugé à l'époque que cette désignation compliquait la réponse à une très grave crise humanitaire au Yémen, pays en guerre dont le groupe rebelle contrôle une bonne partie.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué hier que le président chinois Xi Jinping lui a fait part de son souhait de mettre l'ONU au cœur des négociations sur la régulation de l'intelligence artificielle. Le point avec Lionel Gaïma.
Xi Jinping m'a dit que l'ONU devrait être au centre du processus, a déclaré M. Guterres devant des journalistes en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. M. Guterres avait mis en place l'année passée un panel d'experts pour plancher sur des recommandations pour la gouvernance de l'intelligence artificielle. Le panel d'experts a remis en décembre un rapport d'étape préconisant des principes généraux comme l'inclusivité, l'intérêt général et le droit international. Guterres a insisté sur l'importance d'une approche universelle et inclusive. Il compte s'assurer que l'intelligence artificielle ne devienne pas un autre instrument creusant les divisions et augmentant l'inégalité dans le monde.
Le président américain Joe Biden a fait venir hier à la Maison-Blanche les chefs du Congrès pour les presser de poursuivre l'aide américaine à l'Ukraine qui est pour l'heure interrompue, faute d'accord entre parlementaires républicains et démocrates sur une rallonge financière. Le président américain a été clair, l'incapacité du Congrès à agir met en danger la sécurité des États-Unis, l'OTAN et le reste du monde libre, selon un communiqué diffusé par la Maison-Blanche. La Chine et les Philippines affirment la nécessité d'un dialogue renforcé vis-à-vis des tensions bilatérales en mer de Chine méridionale, notamment selon Pékin, autour de l'atoll disputé le second Thomas, théâtre de récents incidents. Les deux pays se disputent le contrôle d'îlots dans les Spratlys, un archipel au cœur de la mer de Chine méridionale, vaste espace maritime où d'autres riverains comme le Vietnam, la Malaisie ou Brunei ont également des prétentions. Les États-Unis annoncent des sanctions contre l'ancien président du Guatemala, Alejandro Gramatei, en raison d'accusations de corruption quelques jours après une passation de service de pouvoir plutôt avec le nouveau président Bernardo Arevalo. Monsieur Gramatei, qui se trouvait la semaine dernière encore à Washington, sera généralement inéligible à l'entrée aux États-Unis en raison de son implication dans les affaires de corruption, assure le département d'État américain. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour nos dossiers du jour. Depuis le 11 janvier 2024, le Burundi a décidé de fermer toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda voisin, l'accusant d'abriter et de soutenir les rebelles burundais. Cette mesure a des conséquences directes sur le commerce et les voyages entre la RDC et le Burundi, davantage avec Zanem Netizaidi.
Dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, de nombreux voyageurs ont souvent emprunté la route reliant Bukavu à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, en passant par le Rwanda. C'est le cas de Chabani, chauffeur de l'agence de voyage Alpha Car, qui effectue régulièrement ses trajets depuis plus de 5 ans. Il rapporte que son véhicule tombe souvent en panne à cause du mauvais état de la route en RDC qu'il doit maintenant traverser pour rejoindre Bujumbura.
Auparavant, il y avait beaucoup de clients. Il y avait 10 à 15 véhicules qui partaient de Bukavu. Mais maintenant, à cause de la fermeture de la frontière entre le Rwanda et le Burundi, c'est 3 à 4 véhicules. Ils ont tous peur à cause de l'impraticabilité de la route qu'ils doivent maintenant emprunter. Parfois, nous passons la nuit sur la route sans les vouloir. Et cela pose vraiment un problème. Les clients ne sont pas vraiment contents et il n'y en a plus beaucoup.
Pour Hippocrate Roumain, membre de la société civile travaillant sur les questions de développement, des paix et de sécurité dans la région, la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda est une décision politique qui n'a pas pris en compte les intérêts de la population. Il estime que cette crise devrait être l'occasion pour le gouvernement congolais de réfléchir au développement du pays qui, selon lui, est trop dépendant d'autres pays pour son approvisionnement en produits de première nécessité.
Comme acteur social, nous demandons au gouvernement de diligenter dans les possibles de déclencher la construction de la route Bukavu-Ngomo pour permettre à notre population de circuler librement, pour permettre aux flux économiques Bukavu ou bien Congo-Burundi puissent être bien rétablis afin de permettre que ce que nous avons gagné avant par le truchement de Burundi, que ça reste surtout les activités d'interchange commercial que ça reste.
Selon les observateurs indépendants comme Fazili Moubolé, la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda est le résultat d'une longue crise diplomatique entre les deux pays qui remonte à 2015 et elle affecte aussi les pays voisins qui n'ont pas développé leur politique d'autosuffisance comme la RDC.
Aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit comprendre que ce message est un message fort qui rappelle à la République démocratique du Congo, ça doit être un pays dépendant. Un pays qui doit développer le mécanisme d'être dépendant sur le plan économique et sur le plan social.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu travaille actuellement à la réhabilitation de la route nationale numéro 15, actuellement utilisée par les Congolais et les Burundais pour les échanges commerciaux entre les deux pays sans passer par le Rwanda. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Sénégal, la candidature de Karim Wade à la présidentielle du 25 février fait débat. Il est reproché au fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade de détenir la nationalité française, ce qui le disqualifie légalement de la course à la magistrature suprême, selon ses adversaires. Karim Wade, lui, dit avoir renoncé à sa nationalité française. Ce mercredi, le journal officiel français a renseigné que Karim Wade a renoncé à sa nationalité française, alors que la liste définitive des candidats à la présidentielle sénégalaise doit être publiée d'ici samedi. Pour une analyse, Mouamadou Oumfa a joint à Dakar le journaliste et politologue Ibrahima Bakoum.
Ce débat n'est pas nouveau. Il était déjà là à la veille de la présidentielle de 2019. Il est élu lui-même, en 2018, j'avais déposé une demande de libération de sa nationalité française auprès du Conseil constitutionnel. Alors donc, ça veut dire quoi? Que si on l'a éliminé en 2019, c'était pas pour ça. Et récemment, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quelqu'un est allé chercher dans les dossiers français. Il a trouvé que Karim était toujours inscrit sur la liste électorale en France. Et lui, il disait qu'il n'avait jamais voté en France et que le document daté de Versailles, il dit lui-même qu'il n'habitait plus Versailles depuis 1992 parce qu'il était entre Londres et Paris. Alors, je m'en dis, c'est le fichier qui n'a pas été appelé sur la liste. Mais du point de vue de sa nationalité, je répète, il avait introduit, c'est lui qui parle, une demande de libération de sa nationalité. Maintenant, ça vient d'être fait avec la signature du président Emmanuel Macron.
Le Conseil constitutionnel, avant même la signature de ce décret-là, avait validé la candidature de Karim Ouad.
Il n'y avait même pas encore de candidature validée. Son mandataire était venu avec la demande par laquelle il avait saisi les autorités françaises pour renoncer à sa nationalité de ce pays-là. Donc, ce n'était pas nouveau de ce point de vue, mais il fallait une déclaration sur l'honneur. Alors, cette déclaration, donc, il l'a faite. C'est ça qui fait que la première partie, effectivement, lui a été accordée parce qu'il a déclaré sur l'honneur qu'il n'est que Sénégalais. Évidemment, s'il peine à trouver la preuve de cela, évidemment, il serait exclu. Maintenant qu'il a la preuve, la décision française est venue. Dans ce cas, le reste appartient au Conseil constitutionnel.
Karim Ouad de lui-même, il n'est pas présent au Sénégal depuis quelques années déjà. Est-ce que cette absence ne peut pas peser sur sa candidature?
Oui, on le pense, parce que certains vous diront que bon, il ne connaît pas le pays. Évidemment, ses partisans vous donneront le contraire avec des exemples qu'il voudrait être sur la table. Le phénomène de nouveauté pourrait toujours attirer les gens vers lui. Il y a des gens, effectivement, ils vont être plus sur l'émotion, sur le sentimental, plutôt que sur autre chose. Encore qu'au Sénégal, je ne peux pas vous dire que les gens votent sur la base de programme. On aime une personne ou on n'aime pas la personne.
De quel poids pèse-t-il réellement aujourd'hui sur la scène politique sénégalaise?
Politiquement, je ne peux pas dire qu'il pèse grand-chose. Mais il y a un parti qui est avec lui, le parti de son père, le PDS. Le PDS a un électorat plus ou moins fidèle. On a enregistré depuis quelque temps d'anciens ministres, d'anciens leaders de ville qui sont revenus en disant qu'ils reviennent de la maison. Dans ce point de vue, c'est pas son quotient personnel à lui, Karim Ouad, qui va fonctionner. Mais également, il y a l'électorat et du PDS, l'électorat de son père. Et plus maintenant, ce que depuis quelque temps on dit de lui et qui est en train de le positionner comme quelqu'un de résilient malgré ce qui lui arrive, malgré les difficultés, il a tenu bon jusqu'ici.
C'était le journaliste et politologue Ibrahima Bakoum.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La participation des étalons à la CAN en Côte d'Ivoire est un événement important pour le Burkina Faso qui traverse une période difficile. Dans ce contexte, la sélection nationale de football, composée de joueurs issus de toutes les régions du pays, est un symbole d'espoir, de diversité et d'unité pour la population. L'équipe constitue un facteur de cohésion sociale et un élément de résilience. C'est ce que révèle ce reportage de Gildas Da, un de nos correspondants à Ouagadougou, la capitale du Faso.
La longue lutte contre le terrorisme au Burkina est marquée par de nombreuses tensions internes touchant différentes couches sociales du pays. Mais face à toutes ces difficultés, un facteur semble faire l'unanimité. Les étalons. L'équipe nationale de football burkinabé est sur le territoire ivoirien pour disputer la CAN et sa présence à cette compétition est perçue comme un facteur de résilience et de cohésion sociale. C'est ce qu'on pense dans les rues de Ouagadougou et Germain Yougbaré adhère à cette idée.
Ça peut permettre les gens d'oublier ce qui se passe, surtout au Burkina. Nous, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on prie que les étalons arrivent en finale et remportent le trophée. Et pour permettre les Burkinabés de sourire un peu.
Pour Bouraïma Soré, autre habitant de Ouaga, le foot permet de retrouver le sourire par ces temps d'insécurité. Le sport aide au renforcement des liens sociaux.
Que ce soit n'importe quelle religion, les ethnies, sur le terrain, on ne cherche pas à savoir c'est de quel bord, c'est de quelle ethnie, ou bien vraiment ça réunit.
À cette CAN, l'équipe nationale constitue plus que jamais un centre d'intérêt des Burkinabés au vu de la situation que traverse le pays. L'impact des étalons sur la cohésion du pays, Bernabé Cabré, un des célèbres journalistes sportifs du Burkina, l'a senti monter avant le début de cette Coupe d'Afrique.
Ma
va rassembler encore plus les Burkinabés autour de leur équipe nationale. Ils seront vraiment soudés. Donc le football pour moi, surtout cette Coupe d'Afrique des Nations, est l'occasion pour les Burkinabés d'aller ensemble une fois de plus, de se tenir la main. Le football, c'est ce sport-là qui n'a pas de barrière.
Résilience est le nom donné au maillot que les étalons vont arborer lors de cette CAN. Derrière l'équipe, des millions de Burkinabés sont mobilisés, allant des personnalités de tous bords au Burkinabé lambda, un attachement aux couleurs et à l'équipe nationale qui transcende de nombreux clivages et qui pourrait donner du baume au cœur des Burkinabés. Ildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les familles des 136 otages israéliens toujours détenus à Gaza affirment que le temps presse pour ramener leurs proches en vie. Mais tout accord avec le Hamas impliquerait probablement la fin de la guerre à Gaza, ce qui, selon les dirigeants israéliens, n'est pas envisageable pour l'instant. Reportage de Linda Gradstein de la VOA en direct de Jérusalem, récit de Rosine Munezero.
Noah Argamani, qui a été filmé par les ravisseurs du Hamas en train d'implorer sa vie au festival de musique Nova le 7 octobre, est devenu un symbole des 136 otages qui se trouvent encore à Gaza. Cette semaine, Argamani est apparu dans une vidéo affiliée au Hamas, suppliant le gouvernement israélien d'arrêter la guerre afin de sauver les otages. Elle décrit comment elle a été blessée et comment deux autres otages ont été tués par des frappes aériennes israéliennes, et la vidéo se termine par des images présumées de ces otages morts. Les autorités israéliennes affirment que la vidéo est de la propagande du Hamas et qu'elle n'est pas fiable, mais elles tentent de vérifier si les otages ont effectivement été tués par des frappes aériennes israéliennes ou par leurs ravisseurs du Hamas. Noah Argamani, otage israélienne à Gaza.
Arrêtez cette folie et ramenez-nous à nos familles. Tant que nous sommes encore en vie, ramenez-nous à la maison.
Les familles d'autres jeunes Israéliens retenus en otage à Gaza craignent qu'elles ne soient soumises à des abus continus, y compris des agressions sexuelles de la part de leurs ravisseurs du Hamas. Yarden Goren, sœur de l'otage Romy Goren, est terrifiée parce qu'elle a entendu des femmes otages qui ont été libérées. Yarden Goren, sœur de l'otage Romy Goren.
Every minute something can happen.
Chaque minute, quelque chose peut arriver. À chaque minute, ils peuvent décider de leur faire du mal, de les maltraiter mentalement, physiquement, sexuellement, et ils sont sans défense. Que peuvent-ils faire contre cela? Ils ne peuvent même pas résister parce que cela pourrait leur coûter la vie.
En novembre, le Hamas a libéré plus de 100 des 240 otages initiaux en échange d'un cessez-le-feu temporaire et de la libération de quelques 240 prisonniers palestiniens. Cependant, le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait d'autres otages qu'en échange d'un cessez-le-feu complet. Le premier ministre israélien, M. Netanyahou, a déclaré à plusieurs reprises qu'Israël restait déterminé à détruire le Hamas et à libérer les otages. Mais certains membres des familles d'otages estiment que ces deux objectifs sont devenus incompatibles. Jonathan Dekelchen, père de l'otage Sagi Dekelchen.
Rien que dans mon kibboutz, une dizaine d'otages ont été déclarés morts au cours du mois dernier. Leurs corps, leurs restes sont toujours avec le Hamas. Nous ne voulons pas que cela continue. Nous voulons que les otages rentrent chez eux par tous les moyens nécessaires.
Le seul accord sur les otages qui a été conclu au cours des 50 derniers jours est en accord pour que le Qatar et la Croix-Rouge fournissent des médicaments aux otages dans les jours à venir. Mais les membres des familles craignent que ce geste ne suffise pas à maintenir leurs proches en vie.
C'est ici que prend fin le monde aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Un grand merci à Lionel Gaïma qui était à la réalisation et à Calvin Fowler qui était à la technique. Je suis Nanit Talani. Nous n'oublions pas toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique qui a collaboré à la préparation de ce journal. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, X et Instagram. Excellente journée à toutes et à tous. À très bientôt.